appétit. On a commencé à comprendre qu'il y avait un peu plus que l'opposition à nos reports.
Avant, moi, je suis commercial. J'ai commencé par trouver que les choses, elles n'allaient pas bien autour de moi.
C'est sûr, on ne savait pas qui allait venir, en fait.
Les rencontres sont positives, après... C'est dommage qu'on soit obligé de se battre contre l'État.
Moi, j'appelle ça une guerre. Et moi, je me sens comme un soldat.
Quand on est arrivé, la première chose qu'on a fait, c'est de faire des barricades. Parce qu'il fallait vraiment empêcher les flics et les pelleteuses d'arriver ici.
Ici est en train de se créer une pratique de vie sans filet.
ZAD signifie à l'origine zone à aménagement différé. Mais depuis 2010, cet acronyme a pris une toute autre définition, zone à défendre. Dans un pays où la démocratie et la République sont les mamelles d'un État parlementaire, la défense de terres arables par les citoyens de cet État contre les autorités publiques peut paraître être un non-sens, l'amer constat d'un échec politique, social et sociétal. Vous êtes sur Studio ZEF et aujourd'hui nous allons nous intéresser au film de Vincent Lapize, Le Dernier Continent. Sans nier la réalité de la situation, Vincent Lapize nous invite à découvrir autre chose de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. La formidable créativité citoyenne qui s'en dégage, l'incroyable laboratoire social que cela représente, et aussi tout simplement le symbole du retour à la Terre. Mais tout d'abord, Vincent, dis-nous, qui es-tu ?
J'ai 33 ans, j'ai fait des études d'anthropologie, puis après je me suis un petit peu... orienté vers l'image, vers le documentaire. Donc ça, c'était un pas qui a été passé parce que j'ai toujours été intéressé par la recherche et à la fois par le cinéma. C'est-à-dire que pour moi, le documentaire, il y a cette dimension de recherche et de cinéma parce que je pense que ce que j'essaye de faire dans les films, c'est de raconter une histoire avant tout, à partir de la réalité. Et c'est là où ça se distingue un peu de la recherche anthropologique. C'est-à-dire que je ne suis pas là pour livrer une étude. Le Dernier Continent, c'est un film que j'ai tourné entre printemps 2012 et printemps 2014 sur la ZAD, sur la zone à défendre de Notre-Dame-des-Landes. Et c'est un film, disons que moi, ce qui m'a attiré sur la ZAD, c'est... Merci. Ce qui m'a attiré, c'était la dimension avant tout politique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est en train de se créer là-bas, quel projet politique est en train d'émerger sur la ZAD, comment se font les rencontres entre les gens. Et je voyais que la ZAD, alors en 2012 c'était déjà le cas, mais ça s'est amplifié, je voyais que c'était une sorte de symbole. Parce que effectivement, il y avait déjà ce terme lutter contre l'aéroport et son monde, et le monde qui correspond à l'aéroport. Et moi, tout de suite, la question qui venait, c'était lutter contre le monde qui correspond à l'aéroport, mais ça veut dire qu'est-ce qu'on construit comme monde en rapport avec ça.
Une seule solution, la révolution. Ça fait 1, 2, 1, 2, 3, 4.
Justement, ton premier film s'appelait Vent d'hiver, ça s'intéressait à un paysan, je crois, qui expérimentait des pratiques d'agriculture dites naturelles. T'as un film qui s'appelle Dans la forêt grise, qui s'intéresse au jardin partagé. Ce film-là qui s'intéresse à une grande terre agricole qui va peut-être être détruite, il y a un rapport spécial à la terre pour toi, il y a quelque chose là, de fondamental.
En fait, c'est la terre, le territoire comme espace d'expérimentation qui m'intéresse. Et il y a déjà d'emblée ça, Et il y a aussi un autre aspect, c'est l'aspect rapport à la nature. C'est-à-dire ça, c'est quelque chose qui est dans la plus... Enfin, c'est une question qui revient dans tous mes films, c'est comment l'humain, à l'heure actuelle, se repositionne par rapport à la nature et qu'est-ce qu'il cherche à créer comme rapport à l'environnement.
Rapport à son environnement.
À son environnement proche. Et donc, du coup, c'est un peu en filigrane de tous mes films. Je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais, non, mais en tout cas, c'est un intérêt qui revient assez souvent. Et c'est pour ça que le film, pour moi, ce film-là, Le Dernier Continent, c'est un film qui est un peu à la croisée de différents questionnements, différentes choses qui m'interpellent, quoi. C'est à la fois cette réflexion sur le rapport à la nature, à l'environnement, mais à la fois cette question de la résistance au système, système à l'idéologie dominante, voilà, et à la fois cette volonté d'expérimenter autre chose. Et donc c'est la dimension utopique aussi qui m'intéresse. Pas utopie en tant que rêve, la dimension péjorative, on va dire, en tant que rêve qui ne peut pas s'accomplir, mais utopie en tant que dynamique de transformation.
Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire. Dans ton petit 3,5, ben trop cher, frais de ton hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire. Et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lapin de terre.
Ton arrière. C'est-à-dire le pas de côté qui nous permet d'expérimenter d'autres choses et on reste plus au niveau d'un espèce d'espoir lointain. Non, c'est pour moi la ZAD, c'est un endroit où on essaye de mettre en pratique nos idéaux. Et pour moi, c'est quelque chose qui me semble essentiel à notre époque, c'est-à-dire qu'on est quand même dans un climat de résignation un peu totale, qu'on peut choisir avec des initiatives individuelles, de faire des choses et tout ça. Mais là, il y a un côté très symbolique parce qu'on se retrouve à lutter contre une multinationale qui veut bétonner une terre agricole. Et à lutter contre un État qui favorise ce type de multinationales et qui en gros sclérose un territoire. Et donc c'est en cela où pour moi c'était hyper intéressant de baser mon film sur le temps long. C'est-à-dire comment, qu'est-ce qui se passe sur cette ZAD, comment se font les rencontres, comment les gens évoluent sur ce territoire d'expérimentation qui est quand même, c'est près de 2000 hectares, mais 2000 hectares c'est pas rien, quoi. J'ai trouvé sur la ZAD beaucoup de fantaisie et c'est pour ça que je trouve que, enfin c'est aussi ça, quand je parlais du poétique et du politique, je pense que quand je parle de brèche aussi, c'est-à-dire que je trouve que le climat actuel est tellement moribond, quoi. Et bien sûr, la ZAD, c'est un paysage très complexe. C'est une commune libre. Donc, il y a aussi. Il y a plein de gens très différents qui se retrouvent sur la ZAD. Mais j'ai trouvé qu'il y avait enfin un espace de liberté. Il pouvait s'épanouir une forme de. Je sais pas comment dire, mais il y a une fantaisie.
Quel drôle d'après-midi à mon chat qui fleurit, sur dans mon canari chante Aïda et Verdi. J'ai bien senti qu'hier tout partait de travers. J'ai croisé un lézard bleu comme un léopard, bleu comme un léopard. Je me suis frotté les yeux, c'était pire que pas mieux. Il pleuvait des fourmis coiffées de bigoudi. J'ai couru chez Thérèse, elle m'a lité aux fraises. Le sorcier d'à côté va te vermifuger. Dans les idées, la tête dans les nuages. Le mérite qui nous guette, c'est le rat des pâquerettes.
T'as passé, tu disais tout à l'heure, plus d'un an sur place. Est-ce que t'as une anecdote à nous donner, drôle ou pas, d'ailleurs, que tu n'as pas forcément mise dans le film, mais quelque chose qui t'a marqué, qui fera un souvenir impérissable de ce tournage et de cette ZAD?
Ouais, j'en ai des milliers.
Je me doute bien.
Ouais, ouais. Non, mais j'ai pas mal de bons souvenirs. Oui, la première séquence, alors c'est par exemple, alors moi je suis quelqu'un qui a le vertige, j'ai le vertige, hein. Mais quand je suis avec une caméra, je me transforme un peu et ça m'aide à affronter mes peurs. Donc la première séquence, on me voit grimper dans un arbre. Alors c'était un arbre, c'était assez compliqué à grimper. J'étais invité à suivre une des personnes là, donc c'est la première séquence. Donc je suis avec la caméra et je me suis retrouvé à escalader un arbre.
Chose que tu n'aurais jamais fait dans ta vie personnelle.
Chose que j'aurais jamais fait, mais bon, je pense qu'un film comme ça nous emmène à une certaine folie aussi parfois.
Peut-être dans cette émulation, ouais. Tu t'es dépassé toi-même dans un univers qui se dépasse lui-même.
Non, mais je pense qu'un outil comme peut être le stylo ou la caméra, c'est assumer une certaine part de folie aussi. C'est voilà.
Écoute Vincent, je te remercie pour ces précieuses réponses. Je vais te souhaiter bon courage pour la présentation de ton film et puis à bientôt.
À bientôt, ouais.
Quand je suis arrivé, ça m'a fait vachement bizarre. Voir tous ces gens qui étaient pour la plupart fatigués, mais toujours en train de chanter avec de la musique, il y avait une super ambiance. Moi, je me suis plu directement. Directement, mon arrivée à la ZAD, j'ai adoré. J'ai rapidement appris ce que ça veut dire, en fait, de vivre avec plein de gens, de toujours se rendre compte qu'il y a quelque chose à faire, en fait, dans la maison, que on n'a jamais envie de les faire, c'est sûr, mais le fait de vivre en collectivité, ça veut dire aussi qu'il faut se bouger, quoi, parce que si tu ne te bouges pas, personne ne va se bouger. Si plus personne se bouge, le lieu, il est fini. D'ici une semaine, le lieu, il sera invivable. Ça m'a endurci aussi de rester là. J'ai appris à faire ça en fait, me donner à fond dans quelque chose.
Comme c'est dit dans le film, y a beaucoup de mouvements sur la ZAD. Il y a des gens qui restent, qui sont plutôt sédentaires, d'autres qui sont plutôt nomades. En fait, on dit qu'il y a à peu près 200, 300 personnes qui habitent sur les lieux. Mais ça dépend vraiment des moments. En tout cas, il y a une base qui est toujours là et voilà, ça continue à vivre. Il y a de plus en plus de lieux qui se mettent en place et il y a de plus en plus d'activités. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ouverture en ce moment. Notamment les relations qu'il y a aussi entre les luttes, entre la ZAD, Notre-Dame-des-Landes, par exemple la lutte des réfugiés à Calais. On sent qu'il y a de plus en plus de connexions qui se créent. Et je trouve que c'est ça qui est vraiment important, cette densité politique qui est en train d'émaner de la ZAD.
Une seule solution ! La révolution ! Ça fait 1, 2, 1, 2, 3, 4 !
Pardonnez-moi de revenir en arrière parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ignore. Mais pourquoi est-ce que l'État ou les autorités, disons, ont attendu 40 ans pour se décider à construire l'aéroport ?
J'ai peut-être pas tous les éléments de réponse, mais je vais essayer de commencer à défricher un peu. Ça a été lancé là dans les années 70, là, ce projet d'aéroport, et ça a été réactivé sous gouvernement Jospin. Et au moment où Hérault était maire de Nantes. Et le moment où ça a été réactivé, c'était aussi dans une intention où Hérault voulait faire en sorte d'agrandir Nantes, de métropoliser Nantes, faire une grande métropole et d'urbaniser en fait tout le nord de Nantes. Donc en fait, le projet d'aéroport, il faut le voir comme une pièce d'un jeu plus grand, plus vaste, qui vise à ce qu'on peut retrouver, des logiques qu'on retrouve dans l'urbanistique, qu'on retrouve un peu partout, quoi. D'urbaniser tout autour, de créer des grandes
des entrepôts, ouais, des entreprises, des, enfin, voilà, de faire une espèce de planification urbanistique autour des grandes villes pour rendre plus concurrentiel aussi entre régions. Enfin, c'est une histoire de guéguerre aussi entre les différentes régions. Donc il y a plein d'aspects comme ça où finalement cet aéroport, c'était surtout une lutte d'intérêts.
Oh, monde de merde.
Et ma question, elle venait sur le... Si j'ai bien compris, à un moment donné, le préfet a demandé à ce qu'il y ait une phase de concertation. C'est-à-dire que pour arrêter un peu les... Suite au déploiement de forces de l'ordre, a demandé à ce qu'il y ait une concertation. Bon, voilà, on connaît, c'est toujours cette histoire de calmer le jeu un peu. Et comment ça s'est passé à ce moment-là? Est-ce que les gens qui habitent sur le même... sur ce territoire-là, qui ont été obligés, qui ont été amenés à se positionner pour cette concertation, est-ce qu'il y a eu une structuration? Quelles positions ont-ils portées? Qui a porté les positions dans la concertation, s'il y en a une? Est-ce qu'il y a eu une volonté des habitants d'aller vers cette concertation ou de refuser d'y aller? Voilà, c'est des questions qui m'intéressent comme ça.
Alors, je vais vous livrer mon interprétation, qui n'est que la mienne. En fait, déjà, à la base, l'opération policière, elle était censée être sur 3 jours. L'opération militaire, policière, parce qu'au début, il y avait des CRS et des gendarmes mobiles. Après, ils se sont rendus compte que les CRS, il faut les payer en heure supplémentaire, donc c'était pas très rentable. Donc l'armée, les militaires... les gendarmes mobiles, sont restés beaucoup plus longtemps que prévu. Mais ce qui a pu être observé sur place, c'est qu'il y a eu une graduation dans la violence. C'est-à-dire que les derniers jours, au début, je me souviens, il y avait vraiment un truc, ça va se faire en 3 jours, c'est bon. Puis il y a eu plusieurs de... les gendarmes étaient... ils venaient, ils verrouillaient un endroit, ils détruisaient... ils venaient avec les pelleteuses, ils détruisaient les lieux, ils détruisaient les maisons. Et tout fonctionnait plutôt assez bien. Sauf que très rapidement, arrivait pas mal de soutien. Et très rapidement, il y a eu un vrai rapport de force.
Puisqu'il faut bien la faire un jour, et que personne n'a l'air décidé, même s'il y en a des qui sont pour, la révolution, moi je la fais. Pas vraiment du genre patience, c'est ce soir le bonsoir. Voilà pourquoi attendre, moi je trouve ça chance. Et cette nuit que ça se fera ou pas. J'ai préparé mes petits cocktails, mon foulard, mon casque, mon courage. Je suis seul mais je vais faire des merveilles. Sous les pavés, je trouverai la plage. Va bien falloir que les choses changent. Construis donc ma petite barricade. Lancer des paves pour ça me démange. J'ai des munitions plein les bras. Ploum ploum tra-la, ploum ploum tra-la, anarchie vaincra.
Ça, ça a entraîné une espèce de graduation dans la violence, c'est-à-dire que c'était plus l'opération Astérix et Obélix, là, l'opération César. C'est pour ça d'ailleurs que ça a été une grosse connerie de l'appeler l'opération César, enfin bref. Mais ils se sont retrouvés complètement enlisés. Et quand même, les derniers jours, là, c'était fin novembre, je ne sais plus quoi, il y a eu de plus en plus de blessés, quoi. Chaque jour, il y avait de plus en plus de blessés. Le dernier jour, il y a eu référencé une centaine de blessés, quoi. Et des blessés, certains étaient quand même assez graves, quoi. Et je pense que là, à ce moment-là, l'État s'est rendu compte qu'on allait arriver à un truc vraiment... c'était impossible à gérer. C'est-à-dire que si on arrivait à un stade de plus, on arrivait à un mort, quoi, ou plusieurs. Et là, en termes d'image, ça pouvait pas continuer. Et ils redoutaient ça, parce qu'on est dans un monde du spectacle, que la politique, c'est du spectacle, et que l'image, dans des moments, ils essayent de jouer là-dessus, quoi. Et donc, à ce moment-là, il y a eu ce truc qui a été lancé, là, de concertation. Alors, bien évidemment, la plupart, enfin, je crois que, tous les zadistes n'ont pas voulu y participer. Démasquant l'aspect un petit peu mascarade, temporisé, pour mieux après opérer, quoi. Et après, il y a quelques fractions dans la lutte qui est plutôt du point de vue des gens qui étaient plutôt du côté légaliste, on va dire, enfin légaliste dans le sens chercher des solutions juridiques. avant tout, ont été pris dans cette commission. Mais bon, elle a juste révélé, cette commission, qu'elle était juste là pour temporiser. Pour vraiment, elle arrivait au moment où, le gouvernement était face à une... Enfin voilà, il ne pouvait plus continuer, quoi. Donc, pour moi, ça, c'est mon interprétation. Voilà. Et là, ça a été relancé parce que aussi, faut comprendre le contexte plus global. Je pense que la ZAD, elle a pris une essence un peu emblématique et symbolique de vraiment d'une lutte. Bon, voilà, il s'est dit dès le début du film, c'est lutter contre l'aéroport et son monde. Donc, c'est le monde qui correspond à l'aéroport. Donc, si à partir du moment où on commence à résister dans un espace comme ça et à mettre en pratique des choses auxquelles on croit, en fait, une autre façon de vivre en société, et ben là, on crée une brèche qui peut se reproduire un peu partout. Et donc c'est cette portée-là qui à mon avis, est pour le gouvernement, et c'est cette portée-là qu'il redoute. C'est un peu ce qui est né après ZAD partout, pendant ce mouvement-là. Hein. Mais en fait, ils ont bien compris que la ZAD avait une portée emblématique, et que c'est en cela où... Enfin, c'est là où le propos de Valls, quand il dit ne pas laisser un kyste s'organiser, ça révèle bien ce qu'ils pensent, en fait. Parce que pour eux, c'est un kyste, mais c'est une forme de démocratie, mais justement, pour eux, c'est un problème. Donc c'est en cela où... C'est en cela où, pour moi, c'est on peut pas laisser, enfin, le gouvernement peut pas laisser cette ZAD exister comme ça. Il va pas laisser faire. D'une manière ou d'une autre, il va chercher à casser le mythe, quoi, casser l'emblème.
La France change, on s'est dit avec mes compères que pour nettoyer au carcère, on était volontaires, tous ces magouilleurs déguisés. Ok, pour nettoyer la racaille, nous partons donc carcériser l'Elysée. Ces hommes d'affaires en forme de politiciens, libéralisant le pays en dépit des vœux de la populace. Baillonnant la démocratie pour faire passer leurs lois, leurs décrets, même quand le peuple a dit assez. Gouvernement honteux, que rien n'amène à la démission. Le plus ridicule de toute l'histoire de la nation, article 49-3, répression, couvre-feu, dépassé, ta 5ème république a pris un coup de vieux. Le bol s'élève, gouvernement illégitime depuis le nom à la constitution européenne. Partout ça se mobilise, anti-libéral, les prisons se remplissent, la démocratie n'est pas libérale. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cache les plus grands des racailles. Nettoyage au Karcher, gouvernement honteux, est-ce que rien n'amène à la démission. Nettoyage au Karcher, sortez les dossiers du placard, c'est à l'Elysée que se cache les plus grands des racailles. Nettoyage au Karcher, gouvernement.
Est-ce que tous les recours en matière d'écologie au niveau Bruxelles, en fait, est-ce que tout est épuisé ou est-il encore de ce côté-là? Parce que longtemps, on a parlé de cette zone humide avec toute la richesse naturelle, et puis finalement, voilà, c'est retombé un peu à l'eau, quoi.
Bon, c'est pareil, je vais commencer, puis j'invite à ceux qui veulent compléter de continuer. D'après, les recours ne sont pas finis, ne sont pas terminés. C'est-à-dire qu'il y a des appels, il y a cette question du mulot amphibie, de différentes espèces, la loi sur l'eau. Et donc il y a encore des... c'est pas fini. Mais en revanche, d'après les déclarations de Valls, il fait comme si c'était fini. Les recours. Or, il y a encore des procès en appel et c'est pas du tout fini, quoi. Mais je pense que ça arrangeait bien, enfin, dans le contexte où c'est ressorti, il y a eu les attentats, il y a eu l'état d'urgence, ça a précipité un petit peu les choses, et je pense que, enfin voilà, c'est pas de la spéculation, mais quand même, cet état d'urgence, il a permis de faciliter plein de procédures juridiques et de mettre un échelon de plus dans la violence d'État.
Bien joué, les gars.
Si je peux me permettre, oui, un petit peu, toujours dans le prolongement de ce qu'on parle à l'instant, il y a effectivement lié en particulier aux problèmes environnementaux et lois sur l'eau. Il ne faut pas oublier que la Commission européenne également est saisie aussi. Hein, et là, ça dure plusieurs années, en fait. Hein. Alors, je ne sais plus si c'est la commission, ou comment ça s'appelle, à l'échelon européen, a demandé déjà des explications, a demandé des comptes, entre guillemets, à l'État français. Donc, il y a comme ça un aller-retour, des allers-retours. Et donc, de ce point de vue-là, c'est loin d'être réglé au niveau des recours. Hein, et c'est pas le moindre des recours. Parce que, a priori, enfin, après tout, effectivement, tout ce qu'on peut connaître sur l'aspect loi sur l'eau et les aspects environnementaux et protection des grenouilles et de beaucoup d'autres petites bêtes, l'Europe, c'est pas évident que l'Europe laisse passer un projet aussi aberrant. Hein. Par ailleurs, toujours sur les aspects juridiques, bah, y a les grands, enfin, ce qu'on vit en ce moment en plein, à savoir les risques d'expulsion des familles qui restent. Hein. Donc on peut rappeler, comme l'indiquait le film, que la plupart des gens maintenant, agriculteurs ou non agriculteurs, ont été expropriés. Enfin, ils sont expropriés pour la plupart depuis fort longtemps, souvent au bénéfice du Conseil général, enfin Conseil départemental de Loire-Atlantique, et de l'État. Lequel État, et ça c'est un point qui a été également signalé dans le film, l'État vient de concéder donc la construction à Vinci, à Géo Vinci, pour 55 ans. Hein, depuis 2012, hein, cette concession est intervenue, alors selon ce qu'on lit, c'est 2011 ou 2012, enfin on n'en est plus à une année près. Et donc là, ça fait déjà donc de l'ordre de 2, 3, 4 ans que Vinci devrait construire, et c'est pour ça que Vinci a appelé donc les familles restantes devant le tribunal l'autre jour à Nantes. Hein. Donc on était un certain nombre peut-être d'ici à être là-bas dans la grande manifestation sur le périphérique de Nantes. Et puis trois jours plus tard, donc le procès devant le tribunal. Et comme on pouvait le craindre, quelques jours plus tard, ça a été mis en délibéré le 25 janvier. Donc le tribunal a confirmé donc l'expulsion des familles en question. Alors heureusement sans astreinte financière, parce que la grande crainte c'était qu'il y ait une astreinte de 500 à 1000 euros par jour, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est une semi-victoire si on peut dire. Hein. Mais donc là ben, maintenant ils vont faire appel, hein, les familles concernées vont faire appel. Donc voilà, tout ça pour dire, on ne va pas rentrer dans le détail de tous ces recours juridiques, mais pour dire que c'est loin d'être abouti, contrairement au discours de Valls et compagnie, quoi. Hein, et de Retailleau. Hein. Retailleau, l'abominable président du conseil régional, quoi. Hein. Alors, j'entendais également tout à l'heure, enfin, peut-être un peu dans le prolongement de la question de madame, si je pense qu'il est bon de rappeler aussi que maintenant toutes les études, alors malheureusement pas faites par l'État, on voudrait bien qu'elles soient financées par l'État, mais toutes les études diverses et variées qui ont été faites concernant Nantes-Atlantique, c'est-à-dire l'aéroport actuel de Nantes, au sud de Nantes, tendent à montrer que cet aéroport est tout à fait aménageable pour un coût environ de 10 fois moins cher que la création de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Et ça, c'est extrêmement important quand même à prendre en compte. Il y a déjà pas mal d'études qui sont faites, et il y a même déjà une étude qui a été faite maintenant, il y a 7-8 ans, par un grand cabinet indépendant, un grand cabinet hollandais, qui montrait déjà ça. Et toutes les études plus récentes montrent effectivement que Nantes peut très bien être aménagée. Et il y a même l'association des pilotes, puisqu'il y a une association des pilotes qui est opposée à la création de Notre-Dame-des-Landes, a bien confirmé, enfin a participé à ces études et a bien montré que Nantes-Atlantique était tout à fait aménageable.
Quelle agriculture paysanne face à l'accaparement des terres sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes et ailleurs?
Dans les débats qui traversent, il y a aussi l'histoire des spécismes. On a tous fait la grimace, mais c'est pas dans ce...
C'est quoi la question?
Le spécisme. La vache, c'est une bête comme toi, quoi. T'es pas plus que la vache, quoi.
Désolé de te le dire. Ah, ouais.
Si tu veux un peu plus de précision sur la question, ils invitent des paysans dans la semaine qui suit, la semaine antispéciste. Ils cherchent des paysans qui viendraient
expliquer.
Échanger, oui. Pas dans un esprit polémique, mais qu'ils puissent échanger.
Ils veulent pas faire un débat contradictoire. Ah. Ils veulent juste que nous, on explique comment comment on utilise les animaux.
Il faudrait reprendre le débat au néolithique quand ils ont commencé à
Tu viendras aller.
Avant, c'est peut-être
aller
se familiariser avec en disant.
Non, mais ça serait bien, s'il y en a qui ont envie, ça serait bien qu'on y soit quelques-uns.
C'est quand ça, Dominique ? Dernier
paragraphe. Il y avait des gardes mobiles qui étaient là, il y avait une pression, ça occupait énormément d'énergie. Après qu'ils soient partis, ben on a eu le temps de se poser aussi.
Et ça peut être le lundi après-midi.
Tant qu'on est dans, à la limite dans la défensive, ben on pense qu'à ça. Et puis on, là, on est tous d'accord, on ne veut pas qu'ils soient. Après, du coup, on a été dans une démarche plus de construction. Donc forcément, là, il y a les, des divergences qui arrivent. Quoi. Mmh. Et qui ne sont pas si éloignées, en fait, dans le fond, au final. Mais il faut qu'on arrive à se comprendre et qu'on revient à la même chose, que tout le monde s'y retrouve. Quoi. Pour cette ZAD.
On n'est pas tous en bio, il est loin de là. Quoi.
Faut, y a un équilibre à trouver entre. Faut aussi qu'on. Ben on peut pas se couper non plus complètement de nos collègues paysans. Quoi. Et ça, c'est des fois difficile.
Rendez-vous sur la ZAD, voilà, c'est quand même un endroit qui est assez ouvert. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas arriver en touriste, voilà. Oui. Mais voilà, par exemple, il y a cette manif là du 27 février, qui va a priori terminer par une grande fête. Voilà, c'est peut-être l'occasion aussi pour ceux qui ne se sont jamais rendus d'y passer, discuter avec les habitants de la ZAD.